C'est par la grâce, et encore la grâce. Il y a quelques semaines, après que Marek a terminé la construction de la cabine média, il a eu une excellente idée. Mettre un verset biblique dessus, et organiser un vote, pour choisir lequel. J'ai donc lancé un sondage, sur le canal WhatsApp de l'Église, et choisi 5 versets du Nouveau Testament, disons, centrés sur l'Évangile. Ils étaient, Romains 5:8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Jean 3:16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Romains 5:1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. » Romains 6:23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, en Jésus-Christ notre Seigneur. » Éphésiens 2:8 à 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Lorsque le sondage a commencé, Romains 5:1 a pris rapidement une large avance. Je pensais que Jean 3:16 recevrait plus de votes, mais finalement il a terminé à la 4e place. Les versets qui ont gagné de loin sont ceux que vous pouvez lire là, sur la cabine média. Qu'y a-t-il dans Éphésiens 2, 8-9, pour qu'il obtienne la première place au sondage? Pourquoi ce fut l'un des premiers versets bibliques que mon père m'a fait mémoriser lorsque j'étais enfant? Et pourquoi les vérités contenues dans ces deux versets comptent-elles parmi les plus difficiles à croire pour nous? Eh bien, explorons cela. Si vous avez une Bible, veuillez l'ouvrir avec moi à Éphésiens chapitre 2. Il y a quelques semaines, nous avons commencé une nouvelle série de sermons sur la lettre de Paul à l'église d'Éphèse. Nous avons examiné l'introduction du chapitre 1, où Paul expose les formidables vérités selon lesquelles, en tant que croyants, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Nous avons vu qu'en Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, et que en tant que croyants, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce, pour mettre en lumière sa grâce extraordinaire. La semaine dernière, nous avons examiné la prière de Paul pour l'Église. Il avait entendu parler de leur grande foi et de leur amour, et il priait pour qu'ils comprennent l'espérance, les richesses spirituelles et la puissance qu'ils ont en Jésus-Christ. Cela nous amène au chapitre 2. Paul va revenir sur le sujet de l'extraordinaire grâce de Dieu. Mais avant cela, il explique pourquoi nous avions besoin de la grâce. Ainsi, avant d'écrire au sujet de leur condition présente en Christ, il parle de leur condition passée, avant qu'ils ne connaissent Christ comme Sauveur. 2:1. Et vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Encore une fois, Paul parle de leur passé. Il dit à l'Église, « Vous étiez morts. » Maintenant nous savons qu'ils n'étaient pas morts physiquement. Ils avaient un pouls, ils pouvaient respirer, leur cœur battait. Ils n'étaient pas morts physiquement, mais ils étaient morts spirituellement. Paul dit qu'ils étaient morts spirituellement dans leurs offenses et leurs péchés. Physiquement ils étaient vivants, mais avant de connaître Jésus, spirituellement ils n'avaient pas de pouls, pas de souffle, pas de battement de cœur, à cause de leurs offenses et de leurs péchés. Qu'est-ce qu'une transgression? Une transgression est une violation des commandements de Dieu. Il se peut que vous marchiez près d'une clôture quelque part, et qu'il y ait un panneau indiquant « interdit d'entrer ». Cela signifie que vous ne pouvez pas passer. C'est interdit. De la même manière, Dieu a dit à Adam et Ève dans le jardin d'Éden qu'ils pourraient manger de tous les arbres du jardin, sauf un. Un arbre était interdit, il était défendu d'y toucher. Mais Adam et Ève ont désobéi à Dieu et ont péché. Ils ont transgressé, et le péché est entré dans le monde. Cela a tout brisé et tout fracturé. Notre relation avec Dieu a été rompue. Il y avait alors une séparation, un gouffre, entre Dieu et les hommes. Le résultat de ce péché fut la mort physique et la mort spirituelle. La mort physique est venue plus tard, mais la mort spirituelle a été instantanée. Avant de rencontrer Jésus, nous étions tous morts dans nos transgressions. Spirituellement, nous n'avions pas de peau, pas de battement de cœur. Nous n'avions pas seulement besoin d'une greffe spirituelle, nous avions besoin d'une résurrection. Mais pourquoi? Pourquoi avons-nous cherché le péché et les transgressions? 1. Et vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Pourquoi avons-nous cherché le péché et les transgressions au lieu de chercher Dieu? Verset 2. Parce que nous suivions le cours de ce monde. Nous suivions le modèle du monde. C'était notre mode par défaut. Chaque fois que vous obtenez un nouvel appareil et que vous l'allumez, il démarre avec les paramètres par défaut. Ce sont les paramètres de base de l'appareil. Il vous arrive ainsi. Après l'avoir allumé, vous pouvez changer les paramètres et sortir du mode par défaut. Paul dit que le mode par défaut du monde n'est pas de plaire à Dieu, mais de se plaire à soi-même. Le système d'exploitation par défaut de ce monde est de rejeter Dieu et de vivre à notre propre manière. Fait intéressant, le mot « défaut » vient d'un ancien mot français qui signifie « un échec, une insuffisance, une faute ». Paul dit que nous sommes nés dans le mode par défaut du monde et que nous avons rejeté Dieu. L'une des raisons à cela est le diable, qui est appelé ici dans le verset 2, le prince de la puissance de l'air. Déjà dans le jardin d'Éden, le diable avait dit à Adam et Ève que s'ils mangeaient du fruit, ils ne mourraient pas. Il leur a menti et ils l'ont cru. Et les conséquences ont été dévastatrices. Notre relation avec Dieu a été brisée, et le péché est entré dans le monde. Et le diable n'a cessé de mentir depuis. C'est l'une de ses tactiques pour nous éloigner de Dieu. Et avant de rencontrer Jésus-Christ, nous savons que cela était très efficace dans nos vies. Le diable veut tout faire pour nous détourner de Dieu. Et Paul dit à la fin du verset 2 que c'est encore la réalité aujourd'hui, pour ceux qui ne suivent pas Jésus. Il les appelle les fils de la désobéissance. Voilà donc le tableau dressé dans les versets 1 et 2. Et cela semble plutôt sombre. Paul dit que nous étions spirituellement morts et que fondamentalement, nous errions sur cette terre comme des zombies contrôlés par nos mauvais désirs. Morts et désobéissants. Encore une fois, spirituellement parlant, même une greffe ne nous aurait pas aidés. Paul continue au verset 3. Parmi eux, nous tous aussi, nous avons vécu autrefois selon les passions de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Souvenez-vous, Paul utilise ici le passé. C'était la condition des croyants avant qu'ils soient sauvés par Jésus. Mais cela serait aussi la situation présente pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. En d'autres termes, si vous n'avez pas encore suivi Jésus, alors vous êtes encore piégé dans ce mode par défaut. Au verset 3, Paul dit que nous étions emportés par la passion de notre chair. Lorsque Paul parle de la chair, il ne parle généralement pas de la chair humaine ou de nos corps. Il parle de la nature pécheresse qui ne veut pas écouter Dieu. Nous étions donc coincés dans ce mode par défaut du monde. Nous étions coincés dans cette manière de vivre pour nous-mêmes et non pour Dieu. Nous accomplissions de mauvais désirs dans notre corps et dans notre esprit. Mon premier point ce matin est, premièrement, sans Jésus, vous étiez condamnés. Si vous y pensez comme une colline, vous pouvez voir dans les versets 1 à 3 que nous descendions de plus en plus vers le bas, comme un train fou. Un train fou, c'est lorsqu'un train commence à avancer sans qu'on le contrôle. Et quand le train commence à descendre une pente, il devient presque impossible à arrêter parce qu'il ne fait qu'accélérer. Si personne ne le contrôle de l'intérieur, la seule façon de l'arrêter est qu'il s'écrase. Et c'est l'image donnée ici dans les versets 1 à 3. Spirituellement, nous étions comme un train fou qui dévale la pente. Il n'y avait rien en nous qui voulait changer ou faire demi-tour. Nous étions hors de contrôle, vivant dans les passions de notre chair, et en route vers un accident, en route vers la colère de Dieu, une éternité séparée de Dieu, en enfer. La colère de Dieu est la réponse de Dieu au péché et à la désobéissance. En tant qu'être humain, quand nous éprouvons de la colère, elle n'est généralement pas justifiée. Nous sommes simplement en colère ou irrités. Mais la colère de Dieu est toujours justifiée. Il est saint, donc il doit juger le péché. Dieu ne peut pas ignorer le péché. Dieu doit traiter le péché. Et la seule réponse qu'un Dieu saint puisse donner au péché de façon juste, c'est de punir le péché. Et c'est l'image donnée au verset 3. Nous descendions la pente. Nous nous dirigions vers le juste jugement de Dieu sur le péché. Nous allions vers la punition de Dieu. Nous marchions vers la colère de Dieu. Nous allions recevoir exactement ce que nous méritions à cause de notre désobéissance. Et non seulement nous ne pouvions pas nous arrêter, mais nous ne voulions pas être arrêtés. Personne ne nous a forcés à monter dans ce train. Nous sommes montés de nous-mêmes. Nous avons acheté nos propres billets. Nous étions sans espoir. Et nous descendions de plus en plus bas, de plus en plus vite, dans la pente. La situation était vraiment sombre, n'est-ce pas? Cela semblait plutôt désespéré. Mais ensuite, au verset 4, nous voyons deux des mots les plus beaux de toute la Bible. Regardons les versets 4 et 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, même lorsque nous étions morts dans nos fautes, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Mais Dieu. Deux mots, deux syllabes. Pourtant, ces deux mots changent complètement nos histoires. Nous descendions la pente dans le train, nous enfonçant toujours plus dans le péché, nous dirigeant droit vers la colère de Dieu. Mais ensuite il est dit, « Mais Dieu, Dieu a changé notre histoire. » Dites à votre voisin, « Mais Dieu. » Les versets 1 à 3 parlaient de notre mort spirituelle. Mais à partir du verset 4, il s'agit de notre vie spirituelle. Dieu a ouvert un chemin. Parce que Dieu n'est pas seulement saint, Dieu n'est pas seulement juste, mais Dieu est aussi aimant, Dieu est miséricordieux, Dieu est plein de grâce. Paul met même l'accent sur ces mots. Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont Dieu nous a aimés. Nous n'étions même pas capables de faire un tout petit pas de bébé vers Dieu. Paul dit encore au verset 5 que nous étions morts dans nos fautes. Spirituellement parlant, nous n'avions pas seulement besoin d'une greffe. Les greffes sont pour ceux qui sont encore en vie. Non, nous avions besoin d'une résurrection. Mon deuxième point ce matin. 2. Avec Jésus vous êtes vivants. Dieu est intervenu. Il nous a retirés de ce train fou qui dévalait la pente. Et il nous a rendus vivants avec Christ. Alléluia. Nous sommes passés de la mort à cause de nos fautes à la vie avec Christ. Mais Dieu, comment cela s'est-il produit? Verset 5, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Qu'est-ce que la grâce? Une définition simple est la suivante. La grâce est la faveur de Dieu accordée à ceux qui ne la méritent pas. Et nous le voyons ici dans Éphésiens 2. Nous descendions rapidement la pente, nous étions coincés dans le mode par défaut du monde. En d'autres termes, nous n'allions pas de mieux en mieux, mais de pire en pire. Nous ne méritions pas la bonté de Dieu. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde et son amour, nous a fait grâce et nous a sauvés. Il y a une belle illustration de cela dans la comédie musicale Les Misérables. Le personnage principal, Jean Valjean, est libéré de prison après 19 ans. Il était en prison pour vol et tentative d'évasion. Mais une fois libéré, il essaie de trouver un endroit où dormir. Mais son passeport indique « criminel », et à chaque hôtel, il est repoussé. Il essaie même de retourner en prison, mais le gardien lui dit qu'il doit d'abord faire quelque chose pour se faire arrêter. Finalement, il trouve une église. L'évêque le laisse entrer, lui donne à manger et un endroit pour dormir. On pourrait croire que tout va bien maintenant. Sauf qu'il reste le même homme. Il vole de l'argenterie à l'église et s'enfuit. La police l'arrête et le ramène à l'église pour faire face à l'évêque. Mais au lieu que l'évêque dise « Mettez-le en prison », l'évêque dit à la police que l'argenterie était un cadeau et il donne à Jean Valjean l'argenterie précieuse. Au lieu de condamner Jean Valjean, l'évêque lui accorde sa grâce et la vie de Jean Valjean est transformée. Qu'a fait Jean Valjean pour mériter cette grâce? Rien. Il ne la méritait pas. Il avait volé l'évêque. Mais l'évêque a été gracieux envers lui, et cela a changé sa vie. Il en va de même dans notre relation avec Dieu. Nous étions des fils et des filles de la désobéissance. Mais Dieu, dans son amour et sa miséricorde riche, a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre. Jésus a vécu une vie parfaite et a donc été le sacrifice parfait pour notre péché sur la croix. Sur la croix, Jésus a absorbé la colère de Dieu contre notre péché. Il a pris notre place. Il a payé une dette qu'il ne devait pas. Ses derniers mots sur la croix ont été « Tout est accompli ». C'était un terme potable qui signifiait « payer en totalité ». Il a payé la peine de notre péché sur la croix. Il est mort et a été enseveli. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. La mort n'avait aucun pouvoir sur lui. Au contraire, il a vaincu le péché et la mort une fois pour toutes. Dieu l'a ressuscité des morts et lui a donné la vie. Et parce que Jésus est vivant, nous pouvons être rendus vivants avec lui. Notre résurrection n'est pas encore physique comme celle du Christ. Elle est plutôt spirituelle. Au salut, le Saint-Esprit vient dans nos vies et nous scelle comme fils et filles de Dieu. Nous pourrions faire le tour de cette salle et entendre histoire après histoire de la puissance de résurrection de Dieu dans vos vies. Nous venons peut-être de pays différents. Nous parlons peut-être des langues différentes. Mais la même puissance de résurrection qui vit en vous, vit aussi en moi. Ne manquez pas cette vérité ce matin. Physiquement, vous êtes peut-être vivant parce que votre cœur bat, vos poumons respirent et le sang coule encore dans votre corps. La question est, êtes-vous vivant spirituellement? Avez-vous été rendu vivant avec Christ? Donc Jésus nous ramène d'entre les morts spirituellement. Mais ce n'est pas tout. Cela devient encore meilleur au verset 6 et 7. 6. Et il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Les versets 1 à 3 nous montraient une route qui descendait, comme un train fou, lancé vers le désastre. Nous descendions. Mais alors le verset 4 commence par « Mais Dieu ». Et dans les versets 4 à 7, nous voyons que non seulement Jésus nous a ressuscités, spirituellement d'entre les morts, mais nous continuons à monter. Dieu continue de nous élever toujours plus haut. Nous ne sommes pas ressuscités d'entre les morts pour être laissés au cimetière. Mais nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes. Non seulement dans cette vie, mais aussi dans celle à venir pour l'éternité avec Jésus. J'ai déjà raconté cette histoire, mais quand j'étais enfant, à Pâques, ma famille allait en voiture à la ferme de mes grands-parents. Mes cousins étaient là, et nous jouions tous ensemble. Le temps était généralement agréable. Et, chaque fois que nous mangions le dîner de Pâques, il y avait toujours deux tables. Il y avait une table pour les adultes. C'est là que mes parents, mes grands-parents, mes oncles et tantes s'asseyaient et mangeaient. Et puis il y avait une table pour les enfants, où je m'asseyais et mangeais avec mon frère et mes cousins. Bien sûr, la table des adultes avait la meilleure nourriture. Et nous, les enfants, nous nous demandions toujours de quoi parlaient les adultes à leur table. Nous avions hâte d'être assez grands pour pouvoir nous asseoir à la table des adultes. Bien sûr, maintenant je sais de quoi ils parlaient à la table des adultes. Généralement ma tante et mon grand-père se disputaient à propos de politique. Mais à l'époque, nous voulions juste avoir une place à la table des adultes. Mais nous voyons ici, dans ces versets, que dans le royaume, il n'y a pas de table pour les enfants ou de table pour les adultes. Il n'y a pas de table. Le verset 6 dit que nous sommes assis avec lui. Nous sommes à table avec Jésus. Dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, il n'y a qu'une seule table de banquet. Et nous ne venons pas en tant qu'invités, car on ne peut pas être invité quand on est chez soi. Et que se passe-t-il là-bas? Le verset 7 dit que la grâce et la bonté de Dieu continuent d'être déversées sur nous. Nous servons un Dieu bon. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Cela ne fait que s'améliorer encore et encore. Maintenant, vous êtes peut-être assis là en pensant « c'est trop beau pour être vrai ». Vous vous dites peut-être « tout cela semble bien, mais Dieu ne pourrait jamais pardonner quelqu'un comme moi. Je connais les choses que j'ai faites. Le ciel est pour les gens bien, pour des gens meilleurs que moi. Manger à la table avec Jésus semble merveilleux, mais je n'y arriverai jamais. » Si c'est votre cas, ce matin, regardez avec moi les versets 8 et 9. 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 9. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Au cas où vous ne l'auriez pas compris dans les versets 4 et 5, Paul répète qu'en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Souvenez-vous, la grâce est la faveur de Dieu, accordée à ceux qui ne la méritent pas, à ceux qui ne sont pas dignes. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui, et que vous vous sentez indigne, ou que vous sentez que vous ne méritez pas, alors vous êtes au bon endroit. Parce que nous avons tous été dans la même situation. Nous avons tous ici un passé. Nous étions tous morts dans nos fautes. Nous étions tous indignes. En d'autres termes, personne ici ne s'est sauvé lui-même. Personne ici ne s'est ressuscité lui-même. Nous ne pouvions pas le faire. C'est uniquement par la grâce de Dieu que nous avons été sauvés. Maintenant, voici ce qu'il faut comprendre à propos de ces deux versets qui sont affichés sur la cabine des médias. Premièrement, vous pouvez être à l'église pendant 50 ans et ne pas comprendre ces versets. Et en même temps, deuxièmement, vous pouvez être chrétien depuis une minute et comprendre complètement ces versets. Voilà ce que je veux dire. Il est possible d'être dans l'Église pendant des années et des années, et de ne pas comprendre la grâce de Dieu. Vous pouvez vous asseoir ici pendant des années et ne toujours pas la saisir. Pourquoi? Parce que la grâce n'est pas la façon dont ce monde fonctionne habituellement. La façon dont ce monde fonctionne est entièrement basée sur la performance. Si vous faites un excellent travail, vous obtiendrez une promotion. Si vous faites un bon travail, vous recevrez une augmentation. Si vous avez de bonnes notes, vous serez un élève brillant. Si vous avez de bonnes notes, vous obtiendrez votre diplôme et trouverez un bon emploi. Tout, dans le monde, dit que si vous avez de bonnes performances, vous allez vous élever. Et il est très facile de prendre ce système du monde et de l'apporter dans votre relation avec Dieu. Ainsi, peut-être essayez-vous de faire beaucoup de bonnes choses pour que Dieu soit content de vous. Si vous faites suffisamment de bonnes actions, alors Dieu vous acceptera. Du coup, chaque jour, vous êtes en haut ou en bas selon vos performances. Mais que disent les versets 8 et 9? Ce n'est pas par vos performances que vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi en Jésus-Christ. Ce ne peut pas être à cause de vos performances, car le verset 8 dit que ce n'est pas par quoi que ce soit que vous ayez fait. Mais peut-être pensez-vous que vous l'avez mérité, ou que vous avez travaillé pour l'obtenir. Non, la fin du verset 8 dit que c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le résultat des œuvres. C'était un don. Ce n'était pas un prêt. Un prêt doit être remboursé, n'est-ce pas? Généralement avec des intérêts, non? Donc, au final, vous payez plus que ce que vous avez emprunté. Mais le salut de Dieu n'est pas un prêt à rembourser, non. C'est un don. Et nous savons qu'un don est gratuit. Vous n'avez pas à rembourser un don parce qu'il a déjà été payé. La grâce de Dieu est à l'opposé du système basé sur la performance de ce monde. C'est pourquoi des gens peuvent rester des années dans des églises sans jamais la comprendre. En même temps, vous pouvez être chrétien depuis une minute et comprendre parfaitement ces versets. Surtout si vous avez un passé haut en couleur. Maintenant, tout péché est péché. Comme Paul l'a dit, nous étions tous morts dans nos fautes. Mais Jésus a raconté cette parabole dans Luc 7, 41 à 43. 41. Un certain créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. 42. Comme il n'avait pas de quoi payer, il remit la dette à tous les deux. Lequel de ces deux l'aimera le plus? 43. Simon répondit, « Je pense que c'est celui auquel il a remis la plus grosse dette. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Ils étaient tous les deux endettés. Le créancier a annulé les deux dettes. Mais la personne qui devait bien plus d'argent a aimé davantage. Jésus veut dire que nous avons tous besoin de la grâce. Mais celui qui était vraiment hors de contrôle l'apprécie d'une certaine façon un peu plus. Nous voyons aussi cela dans la parabole du fils prodigue. Dans Luc 15. Le fils prodigue est parti et a mis sa vie sans dessus dessous, au point de manger avec les cochons. Et quand il est revenu vers son père avec repentance, le père a organisé une grande fête pour lui. Mais regardez la réaction de son frère aîné, dans Luc 15, 25 à 32. 25. Or, son fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. 26. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que cela signifiait. 27. Le serviteur lui dit, « Ton frère est revenu et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » 28. Alors il se mit en colère et refusa d'entrer. Son père sortit et le supplia d'entrer. 29. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. 30. Mais quand ton fils que voilà est revenu, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, tu as tué pour lui le veau gras. 31. Le père lui dit, « Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » 32. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, car ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Le fils aîné refusa d'entrer à la fête, parce qu'il était contrarié. Il était en colère, parce qu'il avait toujours fait ce qui était juste, et que son père n'avait jamais organisé de fête pour lui. Le fils aîné a manqué la célébration parce qu'il n'a pas compris la grâce. Quel est mon point? Suis-je en train de dire que vous devez avoir eu un passé vraiment mauvais pour comprendre la grâce de Dieu? Non. Comme dans la parabole de Jésus, à propos des deux hommes endettés, la dette des deux a été annulée. Mais la personne qui devait 500 deniers a, d'une certaine manière, mieux compris ce qui s'est passé. C'est simplement ainsi. À mon avis, la personne qui a toujours essayé de bien faire les choses, surtout avant de devenir chrétien, il lui est plus facile de tomber dans le piège du système basé sur la performance du monde. Si tu fais bien, Dieu sera content de toi. Si tu ne fais pas bien, alors Dieu n'est pas content de toi. C'est la tentation pour cette personne. Pour celui qui a vraiment tout gâché, la tentation est de croire que Dieu ne pourrait jamais aimer ou pardonner quelqu'un comme toi. La tentation est de croire que tu es trop perdu. Mais si tu es ici aujourd'hui, et que tu respires, l'espérance du Christ est disponible pour toi. La bonne nouvelle, c'est que, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La grâce de Dieu est ici pour toi. C'est un don de Dieu. Tout ce que tu peux faire avec un don, c'est l'accepter ou le rejeter. Et nous recevons le don de la grâce de Dieu par la foi. Romains 10:10. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. En d'autres termes, Jésus a fait tout le travail. Il est venu, il est mort, il est ressuscité. Tout ce que tu as à faire, c'est croire en lui et recevoir sa grâce. Tu pourrais dire, « Cela semble trop facile. Tout ce que j'ai à faire, c'est l'accepter et croire. » Laisse-moi te dire par expérience personnelle. C'est l'une des choses les plus difficiles à faire. Croire que j'ai passé une excellente journée aujourd'hui ou que j'ai tout gâché. Dieu m'aime de la même manière, que je demeure dans sa grâce. Il est tellement facile de retourner au système basé sur la performance du monde, au lieu de se reposer dans la grâce de Dieu. Ne laisse pas ces deux versets être inscrits seulement sur le pupitre des médias. Qu'ils soient inscrits sur ton cœur. Dernier verset, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Paul dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Le mot grec utilisé ici est le mot poiema, d'où nous tirons le mot poème. Certains traduisent ce mot en disant que tu es le chef-d'œuvre de Dieu, tu es son œuvre d'art. N'est-ce pas incroyable? Peut-être que tu as une faible image de toi-même. Peut-être que tu as une faible estime de toi. Peut-être que, pendant la plupart de ta vie, tu as pensé que tu n'as pas beaucoup de valeur ou d'importance. Mais le Dieu de l'univers dit que tu es son ouvrage, tu es son poème, tu es son chef-d'œuvre. Tu pourrais te regarder et voir toutes les imperfections ou toutes les choses que tu penses être des défauts chez toi. C'est peut-être ainsi que tu te vois. Mais Dieu te regarde et dit que tu es son chef-d'œuvre. Et ce n'est pas tout. Paul continue et dit que tu es son chef-d'œuvre, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. J'ai dit plutôt que ce ne sont pas nos bonnes œuvres qui sont la base de notre relation avec Dieu. C'est uniquement par la grâce de Dieu, à travers la croix, que nous sommes sauvés. Ainsi, les bonnes œuvres ne sont pas la base de notre relation avec Dieu, mais nous voyons au verset 10 quels sont le résultat de notre relation avec Dieu. C'est une distinction importante. C'est ce dont parle le livre de Jacques lorsqu'il dit que la foi sans les œuvres est morte. Les bonnes œuvres ne sont pas la base de notre relation avec Dieu, mais elles en sont le résultat. Mon dernier point, 3. Par Jésus tu as un but. Le verset 10 dit que Dieu a de bonnes choses pour toi à accomplir. Dieu les a déjà préparées pour toi. Ainsi, Dieu t'a créé intentionnellement et pour un but précis. Il a de bons plans pour toi. Il ne t'a pas ressuscité spirituellement pour te laisser dans un cimetière. Non, il t'a rendu vivant avec Christ pour accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Il t'a donné le Saint-Esprit pour te guider dans toute la vérité et la compréhension. As-tu expérimenté la grâce étonnante de Dieu que nous voyons ici dans Éphésiens chapitre 2? As-tu été rendu vivant en Christ? Sinon, laisse-moi te dire que peu importe à quel point ta vie est sombre en ce moment, Jésus peut l'illuminer. Et si tu as été rendu vivant en Christ, marches-tu dans cette grâce extraordinaire? Te tiens-tu dans cette grâce? Ou retournes-tu au système fondé sur la performance du monde? Paul a rappelé à l'Église d'où elle venait, afin qu'elle puisse comprendre sa réalité présente en Christ. Et une fois qu'il l'avait compris, il pouvait aller de l'avant et vivre le plan de Dieu pour leur avenir. Tu as été rendu vivant avec Christ. Tu es son chef-d'œuvre. Tu es son ouvrage. Tu es son œuvre d'art. Et il a préparé pour toi toute une vie de choses merveilleuses à accomplir. Maintenant, va et marche dans ses œuvres. Invitation. Je vais demander à l'équipe de louanges de s'avancer et de nous conduire dans un chant de réponse à la parole de Dieu. Et pendant que nous chantons, nous allons avoir un temps d'invitation. Si Dieu agit en toi ce matin, nous voulons t'aider et prier pour toi. Ce moment est une occasion de répondre à ce que le Saint-Esprit t'invite à faire. Ce matin, si tu ne connais pas Jésus-Christ comme ton Seigneur, aujourd'hui est le jour du salut. Si tu t'identifies au verset 1 à 3, si tu réalises qu'au plan spirituel tu es mort, laisse-moi te dire que tu peux expérimenter les versets 4 à 10 aujourd'hui. Si Dieu te pousse à te repentir de tes péchés et à placer ta foi en Jésus-Christ, nous t'invitons à t'avancer. Viens et expérimente la puissance de résurrection de Dieu dans ta vie. Ou peut-être ce matin luttes-tu avec le dessein de Dieu pour ta vie. J'aimerais prier pour toi et simplement te rappeler que le Seigneur est avec toi. Ou peut-être y a-t-il autre chose avec laquelle Dieu travaille en toi ce matin. Quelle que soit la manière dont Dieu te conduit aujourd'hui, c'est un moment pour toi de répondre. Je serai ici à l'avant pour t'accueillir si tu viens. Prière. Père, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour Jésus. Nous te remercions de nous avoir ressuscités spirituellement d'entre les morts. Nous étions sur une pente descendante qui ne menait nulle part. Nous étions morts dans nos offenses, mais toi, Dieu, riche en miséricorde, à cause de ton grand amour, tu t'es penché et tu nous as rendus vivants avec Christ. C'est par ta grâce que nous sommes sauvés. Merci parce que tu as un plan et un dessein pour chacun d'entre nous. Puissions-nous prendre plaisir au voyage alors que nous découvrons ce que cela signifie pour chacun d'entre nous. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.